Aujourd'hui, nous sommes heureux de retrouver notre évêque, Mgr Marc Caillé. Bonjour, Mgr Marc Caillé.
Bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs. Nous enregistrons cette émission le 27 mai, au lendemain de la grande mobilisation qui s'est déroulée à Paris contre la loi Taubira, contre la loi ouvrant le mariage aux personnes homosexuelles. Alors, Mgr Marc Caillé, vous aviez appelé à participer à cette manifestation. Vous aviez d'ailleurs publié une lettre au diocésain le 23 mai dernier. Vous aviez également publié une lettre concernant le mois de Marie, le mois de mai, où vous invitiez également à la mobilisation. Alors, cette mobilisation a eu lieu hier à Paris. Selon la police, 150 000 manifestants. Selon les organisateurs, 1 million. Vous y étiez. Alors, quel bilan tirez-vous de cette journée de mobilisation à Paris contre le mariage gay?
Bon, c'est difficile de faire un bilan en profondeur qui méritera encore un peu de temps. Mais ce que je dirais, pour avoir participé avec un certain nombre de diocésains, de Bayonne, Lescar et Oloron, c'est que, contrairement aux menaces qui semblaient peser sur ce mouvement d'hier, l'intimidation, je dirais même, du gouvernement par rapport à des possibles débordements, la manifestation en elle-même, qui s'est déroulée entre 13h30 et, on va dire, 19h30 jusqu'aux Invalides, à partir de trois lieux de départ distincts, s'est passée dans le plus grand calme, dans une atmosphère festive, très JMJ, je dirais, de même que le 24 mars et le 13 janvier, même s'il faisait un peu meilleur le 26 mai, sans que nous ayons tout à fait, comme disent les météorologistes, les températures estivales habituelles. Moi, j'ai été encore frappé par le caractère très intergénérationnel, très familial de cette mobilisation. Beaucoup de familles, en effet, beaucoup d'enfants, toute sensibilité. J'ai vu davantage de personnes musulmanes tout à fait identifiées, que j'ai côtoyées d'ailleurs à plusieurs reprises, et on se remerciait mutuellement, d'ailleurs avec beaucoup de joie, d'être présents. Et il y avait toutes les sensibilités politiques. Ce que je remarque, c'est que la crainte d'une récupération politique qui aurait pu être fondée le 24 mars par l'intervention, je trouve, un peu trop présente de députés de partis politiques, en particulier l'UMP, n'a pas eu lieu cette fois-ci, et je m'en félicite, parce que je crois profondément que ce mouvement est beaucoup plus profond que les partis politiques qui sont toujours, il faut bien le dire, à la recherche d'électeurs potentiels et qui surfent un peu trop facilement sur ces grandes mobilisations de masse. Car ce que je dirais comme premier bilan, c'est qu'il n'y a aucun thème en France porté par des syndicats traditionnels ou par des partis politiques traditionnels qui puissent susciter autant d'adhésion et mobiliser autant de monde. C'est vrai que, de manière toujours un peu grotesque et ridicule, quand on connaît on voit les photos, les vidéos qui circulent largement par les réseaux sociaux, quand on annonce 158 personnes, c'est encore une forme de mépris qui est absolument risible, s'il ne donnait pas à pleurer même. Mais oui, je crois que c'est beaucoup plus proche d'un million quand même. Il y avait trois trajets et trois parcours énormes. Tout le monde n'a pas pu venir sur les Invalides parce que M. Valls, au dernier moment, a disloqué, enfin disons qu'a séparé les trois trajets à l'arrivée. Bon, bref, toujours est-il que j'ai l'impression que c'est ce qui est important, ce qui me semble, c'est que la tonalité d'abord reste extrêmement positive. C'est non à une loi, même promulguée et même votée, ce qui est déjà d'autres cas de figure, le CPE par exemple, qui avait été promulgué par un gouvernement de droite, et grâce à la gauche à l'époque, qui est au pouvoir aujourd'hui, et quelques manifestations de rue, cette loi avait été retirée. Donc il est tout à fait envisageable qu'elle puisse être retirée aussi à l'état de son ITER législatif actuel. Mais ce que j'ai vu, c'est que le respect des personnes était vraiment là. Il n'y a jamais eu de réaction, de rejet des personnes homosexuelles. Et je crois qu'il faut quand même le souligner à nouveau. C'était pas l'objet des gens qui étaient là, qui étaient au service de la promotion du bien commun, d'un élément structurant de la société pour l'avenir des enfants et des jeunes générations, qui est de maintenir le mariage entre un homme et une femme, ouvert à la vie et garantissant ainsi la filiation et la cohésion sociale. La rue est vraiment un creuset de fraternité, encore une fois très familial. On avait l'impression que c'était la famille qui défendait la famille en France, quoi. Et je crois que ça, c'est très positif. La dernière chose que j'ajouterais, c'est que on voit poindre en particulier à travers ce plus beau fruit de ces mobilisations du 13 janvier, du 24 mars et du 26 mai, qu'est le mouvement des veilleurs, on voit poindre sans doute une nouvelle manière de faire de la politique en France, parce qu'il faudra bien que ce mouvement conduise aussi à une certaine action sociale et politique organisée. Je dirais par là que, à travers les partis politiques qui semblent un peu en faillite, quand même, il faut bien le dire, sur une mobilisation comme celle-là, les partis politiques font de la politique à partir de l'audimat et à partir de par électoralisme, de la chasse aux électeurs. Ici, on semble qu'on pourra faire de la politique à partir de la conscience. Il y a un réveil de la conscience qui a besoin d'être éclairé, formé, mais on doit faire de la politique à partir de la conscience, quitte eh bien, à entrer parfois en résistance, et ensuite à donner à l'objection de conscience sa place dans la vie politique en France.
Pour vous, on l'a bien compris, cette loi n'est pas juste. Elle a été imposée aux Français d'une manière qui n'est pas juste non plus, ce que vous écriviez dans votre lettre du 23 mai. Et vous disiez également qu'il est évident que le mariage pour tous n'est qu'une étape vers la mise en œuvre généralisée de l'idéologie de la théorie du genre. Cette théorie du genre, bien sûr, vous la condamnez en tant qu'évêque. Quelle sera la suite de cette mobilisation? Ludovine de la Rochère a appelé à poursuivre la mobilisation. Est-ce que ce sera des manifestations encore? Comment vous voyez la suite de ce mouvement? C'est un mouvement sans précédent depuis les années 1968, ce mouvement social.
Voilà. Alors vous savez que moi, je ne suis pas organisateur, hein, donc je ne peux pas préjuger de les décisions qui seront prises par ce collectif qui porte ce mouvement depuis des mois. Je pense en effet que l'objectif va être désormais l'idéologie du genre, qui est le fondement de toute cette propagande pour le mariage pour tous et d'autres sujets sociétaux. Hein. Et vous voyez, je recevais un encouragement d'un évêque de la République démocratique du Congo, l'évêque de Kolwezi, qui, après avoir lu par hasard, sans doute, mais par le net, mon message à mes diocésains de Bayonne, m'a envoyé un message d'encouragement en me disant qu'il prenait conscience que ça ne concernait pas seulement l'Hexagone, mais aussi l'humanité tout entière, et il ajoutait cette formule en disant « parce que l'idéologie du gender est le fer de lance de la mondialisation ». Et c'est vrai que c'est cela qui est le fondement idéologique de toutes ces lois, de toutes ces avancées, comme on dit, sociétales, comme le mariage pour tous. Et je pense qu'il va y avoir là une attention très particulière sur les programmes d'enseignement qui risquent de nous être imposés, comme vous le savez, par une loi de la République via le ministère de l'Éducation nationale. Donc c'est là qu'il va falloir vraiment que nous soyons très clairs sur cette question, que nous étudions la question et que nous n'hésitions pas à entrer dans l'objection de conscience, dans nos établissements catholiques d'enseignement en tout cas, pour préserver les nouvelles générations.
Monseigneur Marc Caillé, nous passons à un autre événement qui a marqué la vie de l'Église en France. C'était à l'Ascension, les 9, 10 et 11 mai à Lourdes, le grand rassemblement Diaconia 2013 servant la fraternité. Vous meniez la délégation diocésaine qui était composée, je crois, de 160 personnes.
180 personnes.
180 personnes, oui, voilà. Oui. Alors vous, comment avez-vous vécu cet événement?
Alors avec beaucoup de bonheur, parce que c'est vrai qu'il y avait une belle atmosphère festive, de fraternité justement, puisque c'était le thème, hein, « Servons la fraternité », et qui est l'aboutissement de toute une démarche qui a été plus ou moins prise en charge dans le diocèse, hein, selon les lieux. Mais je crois quand même que ça donnait lieu à beaucoup de groupes diaconia dans beaucoup de paroisses, même si toutes les paroisses n'ont pas su jouer le jeu d'une manière ou d'une autre, parce que d'autres préoccupations pastorales aussi peut-être leur semblaient prioritaires. Mais ce que je retiens, je dirais que l'image qui m'est revenue le plus, c'était surtout dans cette dernière matinée qui a précédé la messe d'envoi, présidée par le cardinal 23, où il y a eu des témoignages qui permettaient d'avoir une belle vision de ce qui s'était passé pendant ces 3 jours. Et ce qui m'est apparu, c'est que Diaconia 2013, en la suite d'Ecclésia 2007, a voulu souligner l'une des dimensions essentielles ou l'un des piliers de la construction de l'Église comme communion missionnaire, Hein. Ecclésia 2007, c'était davantage l'annonce de la parole. Diaconia, c'était davantage le service du frère. Mais en même temps, en ayant le souci, peut-être encore plus à Diaconia 2013, de bien unifier la mission de l'Église sur ces trois piliers, de montrer que ces trois dimensions sont absolument inséparables. Que ce soit l'annonce de la parole, le service du frère, en particulier le plus fragile, et la célébration de la liturgie. Et il m'est apparu au fond que l'idée, c'était, à travers ces grands événements, comment nous construisons nos communautés. Et comment, en construisant nos communautés, nous construisons l'Église. Sur quelle base et sur quel pilier? Et en particulier à travers Diaconia 2013, on a eu le sentiment que ce qui était important, c'était, comme ça l'a été très bien exprimé à travers ce verset du psaume qui est repris par Jésus lui-même, dans la fameuse parabole des vignerons homicides, qui est « La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue pierre d'angle ». Vous voyez ? Comment les personnes qui sont parfois marginalisées par leur situation de fragilité, qui n'est pas seulement une situation de précarité économique ou sociale, mais qui peut être une fragilité existentielle, une fragilité culturelle, morale, spirituelle. Comment trouvent-ils leur place dans nos communautés? C'était ça qu'on avait compris déjà dans cette initiative Démarche Diaconia. Mais comment, avec eux, nous construisons l'Église? Cette pierre rejetée qui est devenue pierre d'angle, parce que le Christ s'est identifié en particulier aux plus fragiles à travers le mystère de sa passion, et c'est comme ça qu'il construit son Église. Et j'ai trouvé que la dimension spirituelle de Diaconia 2013 était bien honorée. J'étais particulièrement touché par le témoignage d'une personne, certainement d'ailleurs en situation de fragilité, qui rendait compte devant 12 000 participants le samedi matin de ce groupe intitulé « Place et paroles des pauvres ». Et qui est une belle synthèse, je crois, de Diaconia 2013, et qui, au fond, a fait une véritable attestation de sa foi devant ces 12 000 personnes, comme pour bien nous montrer que ce partage de la parole avec les pauvres, qui partage la parole avec tous, et qui nous rappelle nos propres pauvretés, quand on se croit riche et assuré et affermi, cette participation à la vie de l'Église, eh bien, construit vraiment l'Église. Et je pense que c'est là qu'une suite est à donner. Nous avons déjà parlé avec les doyens. Je pense que le Conseil de la Diaconie et de la Solidarité va se réunir pour faire un bilan et un débriefing, et proposer au diocèse un débriefing de cet événement. Mais ce qui est important, c'est que ça rajoute pas quelque chose à ce que nous faisons. Ça souligne une dimension essentielle de la vie de nos communautés.
Le pape François avait adressé également un message à tous les participants.
Alors le pape François, par l'intermédiaire du secrétaire d'État, le cardinal Berton, a adressé un très beau message d'encouragement et pour bien montrer toujours dans le style qui est le sien, combien il est important pour l'Église d'aller vers les périphéries existentielles. Là on est en plein dans ce thème qui lui est cher depuis le début de son pontificat. Et l'Église va vers les périphéries existentielles en allant à la rencontre des fragilités et des précarités qui constituent souvent à la marge de notre Église, mais la société d'aujourd'hui, et comment eux-mêmes sont-ils bénéficiaires de l'annonce de l'Évangile, et comment, eh bien, par l'accueil de l'Évangile qu'ils font, nous aident-ils pleinement à construire l'Église?
Alors, le cardinal Sarah, le président du Conseil pontifical Coronum, que vous aviez invité d'ailleurs l'année précédente, en 2012, pour présider la fête de Saint-Léon ici à Bayonne, a présidé la messe le jeudi de l'Ascension. Qu'est-ce que vous avez retenu de son homélie?
Alors, c'est sûr que la messe était très longue. Moi, je suis arrivé après la messe parce que j'avais d'autres engagements. J'ai su que l'homélie avait été très longue, 33 minutes, je crois. Il a redit le discours que nous connaissons bien, qui est le discours de Deus Caritas Est, qui est, j'allais dire, l'encyclique de la diaconie, qui est la première encyclique de Benoît XVI, en redisant le caractère unifié des trois dimensions de la vie de l'Église, comme je l'ai rappelé. Et il a rappelé qu'il y avait beaucoup de fragilités dans la société, qu'il fallait prendre à bras le corps. Et en particulier, il a parlé des fragilités qui concernent le mariage et la famille.
Vous comptez bien sûr, je pense, sur les 180 personnes de la délégation diocésaine pour relayer ce qu'ils ont vécu dans les communautés paroissiales du diocèse.
Je pense que c'est ceux qui ont effectivement vécu ce qui s'est passé, sachant que beaucoup qui étaient déjà engagés aussi dans leur paroisse, dans la démarche, n'ont pas pu participer pour des raisons XY à Diaconia 2013, mais c'est vrai que ce sont eux qui sont les meilleurs relais, parce qu'ils seront les meilleurs témoins de ce qui s'est vécu, pour essayer de le vivre aussi sur le terrain. Car je crois que Diaconia 2013, c'est pas d'abord une grande usine à gaz, c'est pas une grande théorie, c'est une expérience à la fois de fraternité, une expérience spirituelle, dans le cadre de Lourdes évidemment, qui est très porteur, et qui est maintenant à vivre aussi dans nos communautés paroissiales.
Monseigneur Hayé, le 14 mai dernier, vous étiez à Bétaram pour le lancement de l'année jubilaire Saint-Michel-Garicoït, ce qui marque donc le 150e anniversaire de la mort de ce saint de chez nous. Pouvez-vous nous dire en quelques mots ce qui s'est passé à Bétaram le 14 mai ?
Très belle célébration, qui rassemblait d'ailleurs autour des pères de Bétaram, dont le supérieur général qui était venu évidemment pour l'occasion, un certain nombre de prêtres du diocèse et d'ailleurs, et des Hautes-Pyrénées, mais aussi un certain nombre d'évêques autour du cardinal Jean-Pierre Ricard, notre archevêque métropolitain, qui avait été invité à ouvrir cette année jubilaire en présidant cette très belle messe, avec une grande ferveur, un grand recueillement, qui était tout à fait palpable. Et le cardinal Ricard a su, lui qui ne connaissait pas par avance trop le Saint-Michel-Garicoït, même s'il se rappelle d'un vitrail dans la cathédrale de Bazas, dont il est aussi l'évêque en tant qu'archevêque de Bordeaux, qui représentait ce saint basque, mais il a lu beaucoup et il a su, en quelques mots, très denses, nous redire en synthèse la spiritualité profondément évangélique de Saint-Michel-Garicoït, en disant quelque chose qui m'a beaucoup frappé et touché, en disant qu'il avait été frappé de voir combien le Saint-Michel-Garicoït était émerveillé devant l'amour de Dieu pour nous. Et il est parti de là, qui est vraiment la grande spiritualité du Sacré-Cœur, qui a été à l'origine de la fondation des Pères du Sacré-Cœur de Bétaram par Saint-Michel-Garicoït. Et évidemment, il a été très frappé de la radicalité évangélique que représente ce saint. Alors moi, j'y vois aussi, en effet, une belle grâce pour le diocèse, parce que, comme je l'ai rappelé, avant d'être Père de Bétaram, il est un prêtre diocésain, qu'il est resté jusqu'au bout. J'allais dire presque malgré lui, puisque M. Lacroix ne voulait pas que cette compagnie devienne un institut de droit pontifical, et lui-même est donc resté prêtre diocésain jusqu'au bout, et il a donc, à travers ses fils, toujours quelque chose à nous dire sur la radicalité de la sainteté, et en particulier sur la radicalité de la sainteté sacerdotale. Donc c'est une belle figure pour les prêtres en cette année jubilaire.
Il y aura bien sûr plusieurs rendez-vous tout au long de cette année jubilaire. C'est d'ailleurs vous qui clôturerez l'année jubilaire l'an prochain, le 14 mai 2014. Et vous présiderez aussi le pèlerinage en basque le dernier mercredi d'août dans le village natal de Saint-Michel à Eibar.
Voilà, en tout cas, je serai heureux de clôturer en effet ce jubilé en espérant évidemment que la clôture d'un jubilé, c'est toujours l'ouverture vers une nouvelle manière de vivre le charisme du saint que l'on a fêté pendant un an.
Monseigneur, vous poursuivez les visites pastorales au rythme d'une par mois, c'est bien ça ?
C'est cela.
Donc vous étiez du 11 au 14 avril sur la paroisse Bienheureux François d'Ardan à Sparin. Un mot sur cette visite pastorale ?
J'ai évidemment été très frappé par la vitalité à la fois ecclésiale et humaine de cette paroisse et donc de cette partie du labour, très frappé en effet par la vitalité économique. C'est une terre de réussite, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'industrie, que j'ai visité, rencontré. Et puis au plan chrétien, c'est vrai quand vous savez qu'il y a plus de 500 enfants au catéchisme, qu'on confirme 70 jeunes, on sent qu'il y a une vraie vitalité dans cette paroisse à tous les âges de la vie. Et c'est pourquoi j'étais à la fois dans l'action de grâce et aussi dans l'interpellation, à travers les partages que nous avons eus avec le conseil pastoral, sans doute, et avec pas mal de groupes de chrétiens, mais aussi avec l'assemblée paroissiale, le dimanche en particulier, l'interpellation. J'étais donc sur le ton de l'interpellation en disant, voilà, comment vous expliquez qu'il y a quand même des manques à l'appel, comment est-ce que vous expliquez que les jeunes familles qui sont dans une culture chrétienne tout à fait décomplexée, qui sont dans une réussite sociale et économique, ne soient plus concernées complètement par la vie de la communauté, par nos assemblées. Comment vous concevez qu'une paroisse qui, je parle à ce moment-là que seulement d'Asparin, dans cette paroisse du bienheureux François Dardant, qui a donné, qui pouvait compter 40 prêtres vivants originaires de cette commune il y a 40 ans, ne donne plus aujourd'hui de vocation. Voilà, c'était une manière de poser des questions pour dire appuyons-nous sur cette vitalité pour transmettre davantage la foi et pour être plus missionnaire.
Alors vous serez pour une nouvelle visite pastorale du côté de Arthez de Béarn et Artix du 29 mai au 2 juin. Vous en parlerez lors de notre prochaine émission. Alors vous parliez de justement comment rejoindre toutes ces familles qui ne fréquentent plus forcément nos assemblées, etc. C'est un peu l'objet finalement de la lettre pastorale que vous venez de publier. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile, plaidoyer pour une église de disciples missionnaires. Vous venez de la publier, cette lettre pastorale aux éditions Artege. Alors, vous aviez déjà publié une lettre, un livre, une lettre pastorale assez conséquente il y a quelques mois. Pourquoi cette nouvelle lettre pastorale ?
Alors, la dernière lettre, La Charité du Christ nous presse, date de 2010, ça va faire presque 3 ans maintenant que cette lettre a été écrite. Je rappelle dans cette petite lettre, qui est un peu une piqûre de rappel, j'allais dire, peut-être plus accessible, moins longue et donc plus facile à lire en entier, que je ne remets pas en cause les grandes orientations pastorales et missionnaires sur lesquelles j'ai pu m'étendre davantage en m'appuyant sur l'enseignement du magistère de l'Église dans la première lettre pastorale. Là, c'est aussi une manière de marquer l'année de la foi. C'est aussi comme un bilan d'étape après avoir parcouru un peu plus de la moitié des paroisses du diocèse, qui me donne donc évidemment de mieux encore sentir la situation pastorale et les défis que nous avons à relever, qui est évidemment celui de la mission. Et j'ai voulu, pour enseigner de la foi, bien nous inviter, comme disciples, à nous recentrer vraiment dans l'Église, sur laquelle je me suis un petit peu étendu, surtout à travers les événements qui ont marqué l'Église universelle ces derniers mois, par la renonciation à sa charge de Benoît XVI et par l'élection de notre pape François, recentré sur la foi comme relation d'amitié personnelle avec le Christ au sein de l'Église et comment cette foi était appelée à être confessée dans la société de manière publique, de manière communautaire. Donc toujours dans le sens d'un élan missionnaire, d'une promotion de la nouvelle évangélisation à la suite du grand synode des évêques qui a eu lieu en octobre dernier, pour stimuler un peu nos communautés à cette étape de notre histoire.
Alors, une centaine de pages, c'est assez vite lu. Il y a 7 chapitres. Dans cette lettre pastorale, vous parlez beaucoup de l'observatoire de la mission, du rôle qu'il va jouer dans les semaines et les mois à venir, et vous parlez de mission paroissiale. Peut-être un mot sur cet observatoire de la mission et sur ce que vous allez lui demander dans les semaines et les mois à venir.
Voilà, donc l'observatoire de la mission qui se met modestement en place depuis plusieurs mois, au terme de cette fameuse enquête sur le kérigme dont nous avons rendu compte dans un des derniers numéros du mensuel diocésain de notre Église, et qui a pour but non pas de proposer clé en main des initiatives, mais de proposer des pistes pour monter dans les paroisses qui le voudront, afin de donner chair à ce nouvel élan missionnaire, dans le sens de la nouvelle évangélisation, des missions paroissiales, qui sont évidemment portées à la fois par des communautés missionnaires auxquelles on pourra faire appel, car on a toujours besoin de missionnaires pour nous stimuler de l'extérieur, mais surtout qui seront montés et animés par le curé de la paroisse et ses paroissiens. Et c'est vrai que comme préalable à ces missions paroissiales et donc à ces propositions qui seront faites par l'observatoire de la mission, je retiens tous ces partages très fructueux que j'ai généralement dans les visites pastorales, de plus en plus, avec les fidèles et les prêtres, et en particulier avec les conseils pastoraux, sur ce bien fondé d'une mission paroissiale pour peut-être nous stimuler dans l'espérance, là où parfois, dans notre pastorale ordinaire, qui est d'ailleurs très missionnaire, en particulier la pastorale sacramentelle, eh bien, nous sommes dans la lamentation, dans les constats d'échecs parfois, et on a besoin d'être, j'allais dire, boosté, pour prendre un terme trivial, dans notre joie et dans notre espérance d'être chrétien, d'être engagé et d'être missionnaire.
Vous reprenez à votre compte l'idée du pape d'aller aux périphéries de nos villes et de nos villages, finalement ?
Tout à fait. Je crois que c'est l'élan missionnaire, c'est vraiment sortir de nous-mêmes, de nos communautés. C'est vrai qu'on s'est beaucoup préoccupé du fonctionnement de nos communautés parce que il y avait une pénurie de prêtres, parce qu'il fallait engager davantage les laïcs. Et je crois que ça, c'est une vraie réussite parce qu'il y a une vraie mobilisation, même si ces laïcs vieillissent et peinent à assurer leur relève. Et le pape François, à la suite sans doute de Benoît XVI, mais avec son ton à lui, très direct et très évangélique, nous dit je préfère une église qui sort au risque d'être accidentée à une église qui est malade et qui reste chez elle. Hein, il faut vraiment sortir de nos communautés, aller aux périphéries de l'existence pour annoncer l'évangile. Et donc je crois que c'est aussi dans cette ligne-là, c'est une manière qui est propre au pape François, eh bien de nous dire aussi ce qu'est la nouvelle évangélisation.
Convertissez-vous et croyez à l'évangile, c'est donc votre nouvelle lettre pastorale, qu'on trouve bien sûr dans toutes les bonnes librairies, parue aux éditions Arthège, ça coûte 7,50 €, donc c'est un livre qui est accessible à tous. Vous attendez bien sûr que les paroisses, les prêtres, les fidèles, les laïcs engagés s'en saisissent.
Bien sûr, donc elle a été déjà envoyée à tous les prêtres. Et j'espère bien que les fidèles vont pouvoir se saisir de ce texte et puis le lire, en parler entre eux, et j'espère qu'ils trouveront eh bien motif à être encouragés d'abord dans ce qu'ils font déjà beaucoup, hein, et comme je le constate avec bonheur dans mes visites pastorales, et peut-être à être stimulés à trouver, et on pourra les aider grâce à l'Observatoire de la Mission pour ça, à trouver des nouveaux chemins missionnaires.
Monseigneur Hayet, pour conclure cette émission, nous allons peut-être donner quelques rendez-vous à venir pour ce mois de juin qui s'annonce. Il y aura déjà des ordinations sacerdotales cette année.
Voilà, grande joie pour le diocèse évidemment que ces ordinations sacerdotales d'Augustin Meyong et de Sébastien Lesca, diacre que j'ai ordonné diacre donc au mois d'avril 2012 et qui seront donc, et mai 2012 et qui seront donc ordonnés prêtres à la cathédrale de Bayonne le 30 juin pour le service de notre diocèse. Donc c'est vrai que je sens que c'est forcément un motif de joie d'action de grâce pour les fidèles du diocèse et les prêtres du diocèse devant la pénurie des vocations et le vieillissement du clergé. Je suis sûr que c'est le fruit de l'engagement, en particulier dans la prière, mais dans le témoignage des prêtres, des consacrés, des fidèles laïcs. Et c'est aussi un vrai motif d'espérance pour les jeunes qui, au séminaire, discernent leur vocation ou sont entrés déjà dans un chemin de formation sacerdotale.
Le dimanche 23 juin, vous présiderez la messe d'envoi en mission des laïcs, des fidèles laïcs qui ont suivi le cycle de formation des animateurs de communautés chrétiennes.
Voilà, au terme de 2 ans hein, d'investissement aussi, à raison de 7 à 8 week-ends par an, voilà toute une nouvelle promotion du CIFAC qui va être envoyé en mission par les curés et les personnes autorisées qui les ont envoyés pour ce cycle de formation des animateurs de communautés chrétiennes. Et je serai heureux de présider cette messe et d'accorder une belle bénédiction et un bel envoi en mission à tous ces laïcs qui ont donné de leur temps pour se former à être davantage, j'allais dire, disciples et missionnaires dans leurs communautés respectives.
Merci beaucoup, Monseigneur Hayet, de nous avoir accordé cet entretien qui a été enregistré donc le lundi 27 mai au matin. Merci, Monseigneur.
Merci, Alexandre.